L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Salut à tous et bienvenue sur BFM Business pour ce nouveau numéro de l'atelier numérique. Et bon week-end à vous toutes et à vous tous. Vous le savez maintenant, hein, depuis de nombreuses années, l'atelier numérique, c'est chaque samedi 16h-18h, votre rendez-vous dédié à l'high-tech et à l'économie numérique. Avec toute l'équipe de l'atelier qui est là, les amis. Antoine Cyr nous rejoindra tout à l'heure pour évidemment son crash test, mais aussi sa petite sélection de gadgets. Et elles sont à mes côtés, c'est en quelque sorte mes drôles de dames. Nathalie Doré est à l'atelier US, bien sûr, à San Francisco, comme chaque samedi. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Et dans ce studio, Lila, Constance et Aurore. Mesdemoiselles, bonjour.
Bonjour.
Eh bien voilà, un bon bonjour, bien synchronisé, ça fait plaisir. Parce que d'habitude, on répète, on n'y arrive pas, là on y est arrivé, pour tout vous dire. Au menu de cet atelier, dans un instant, l'actu de cette semaine vue par l'équipe de l'atelier. Ensuite, on retrouvera le Silicon Carnet de Nathalie. On va parler justement de la bataille entre New York et San Francisco pour le futur du commerce. Focus Startup, notre enquête de l'atelier, on va s'intéresser au marché de la rencontre en ligne avec un acteur bien particulier, il s'agit d'Attractive World, la web stratégie du groupe 5 à sec tout à l'heure. Notre passion selon Sanette, on parlera de l'apport de la technologie face aux déserts médicaux avec une boîte étonnante qui peut dans certains cas remplacer un médecin. On la découvrira dans quelques instants avec notre invité. Notre World Tour, notre French Tech Tour, on ira du côté de l'Alsace. Et puis la rédaction de Zéronet.com sera représentée chaque semaine par Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef du Pôle Actu. Voilà, et puis le crash test d'Antoine pour terminer, ce sera tout à l'heure bien sûr. Bienvenue dans cet atelier numérique. Et on commence par l'actu vue par toute l'équipe. Et on va commencer cette semaine par... Allez, si on commençait par Constance.
Merci François,
je vous en prie.
Je suis flattée de cet honneur. Donc je vais vous parler de Cortana, l'assistante de bureau de Microsoft 10, de Windows 10 pardon, sous Microsoft. Alors en fait, c'est une petite assistante que vous avez peut-être pu voir si vous avez fait la mise à jour sur PC classique, qui permet en fait de vous faire tenir parole. Alors comment fonctionne Cortana ? Alors on connaissait déjà les systèmes qui surveillaient les emails, qui du coup notait les rendez-vous précis pour les mettre dans vos agendas automatiquement.
D'accord.
Mais là, Cortana va encore plus loin. Par exemple, si vous écrivez « Promis, je te rends ce dossier avant telle heure » ou alors « Je passerai t'acheter des places de théâtre ce week-end », elle va remarquer votre promesse dans le mail et vous créer un petit événement avec un rappel afin que vous puissiez voilà, tenir vos engagements.
Oui. Donc là, si on fait des fausses promesses, c'est pas bon. Quoi.
Alors Cortana, c'est fichu, on n'a plus d'excuses. On ne peut pas dire « J'ai oublié ». Ce que je t'avais dit. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui a été mise en place, qui permet aussi d'étudier les habitudes horaires de l'utilisateur. Par exemple, si celui-ci va au bureau de 8h à 18h, pour ensuite voir s'il y a un rendez-vous qui est en dehors de ses plages horaires et le prévenir que, a priori, ça semble être compliqué vis-à-vis de son emploi du temps.
Est-ce
qu'il est sûr, voilà, qu'il veut le maintenir sur cet horaire-là?
Voilà, Cortana est pour les 35 heures, les amis. Vous avez compris.
Bravo. Je ne sais pas si voilà les patrons sont très contents de ce service.
Pas sûr.
Mais donc voilà, pour le moment, elle est disponible qu'en anglais. Donc en France, on peut encore oublier toutes nos promesses. Il n'y a pas de souci, mais ça devrait être prochainement traduit dans toutes les langues.
Voilà, mais si vous avez installé votre PC sous Windows 10, sachez que vous avez Cortana automatiquement, hein, puisqu'on a sur chaque PC un petit micro. Il faut activer la fonction et à partir de là, vous pouvez lui poser des questions. C'est un peu comme Siri hein, sur iPhone et chez Apple. Sauf que là, ça va un petit peu plus loin. Elle peut chanter des chansons, etc. Enfin bref.
Elle chante bien, Cortana.
Alors comment dire, c'est pas terrible, mais elle raconte des blagues aussi. Si vous dites par exemple, raconte-moi une blague, elle vous raconte des blagues.
Ah,
mais bon,
c'est
des
carnet,
blagues de Microsoft, hein, donc c'est
intéressant.
Voilà, c'est assez amusant. Nathalie depuis San Francisco.
Alors moi, je voulais vous parler d'un acteur qui lui aussi peut raconter des blagues, puisque Amazon, vous savez, a lancé Amazon Echo. Et Amazon Echo, pareil, vous pouvez lui demander plein de choses et notamment aussi lui demander des blagues. Alors. Pourquoi je vais vous parler d'Amazon? Parce qu'il vient de sortir ses chiffres là du dernier trimestre 2015 et voilà, les chiffres sont assez exceptionnels, tout le monde le souligne ici. Amazon se porte bien, même très bien. Et ils ont fait une performance donc d'augmentation de leurs résultats de plus 118%, ce qui est vraiment un très très bon résultat. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quand même le CEO d'Amazon, Jeff Bezos, est connu pour préférer plutôt gagner des marges en étant super agressif sur les prix. Alors, ça reste vrai, hein, c'est une stratégie qu'ils ont avec la plateforme Amazon. Mais en parallèle, Amazon est une machine à innovation. Et c'est vrai qu'Amazon Echo en est d'ailleurs un exemple. Ils ont leurs deux marchés clés qui sont le e-commerce et le cloud, bien sûr, mais ils innovent énormément à côté. Et moi, ce qui me fait vraiment penser que ça va s'accélérer, c'est ce qu'ils font sur les services. Ils viennent de lancer Amazon Home Services, qui n'en est qu'à ses débuts. Hein. C'est vrai, quand on voit la plateforme, il n'y a pas encore énormément de services dessus, mais ça nous fait rappeler le site d'Amazon du démarrage. Et on sait à quel point derrière, ils ont su agréger des produits, agréger des vendeurs. Et on pense que Amazon Home Services aura le même avenir et que les résultats d'Amazon, du coup, vont continuer à briller à l'avenir.
Voilà, Jeff Bezos qui est en passe de réussir son pari, qui n'était pas évident au départ, hein, parce qu'Amazon, pendant de nombreuses années, a perdu beaucoup d'argent. Donc là, visiblement, il est en train d'inverser la vapeur. Lila Megraoua.
Oui, on connaissait, vous connaissez probablement l'accélérateur au bord d'une plage au Maroc, de Blue House, d'Aline Maillard, qu'on a reçu plusieurs fois en studio, dans l'émission. Là, je vous propose tout simplement un service qui s'appelle Crib et qui propose de mettre en relation à l'investisseur et célébrités et les start-up. Alors pourquoi faire ? Non pas pour permettre aux investisseurs de sélectionner les meilleures start-up et de les financer, d'investir chez elles, non pas ça, mais tout simplement de leur proposer leur domicile. Je m'explique. On peut, alors, investisseurs, on peut imaginer que les investisseurs ont un commerce assez florissant et donc la maison qui va avec. Donc on peut imaginer,
maison, piscine,
voilà, penthouse à New York.
C'est ça.
Par exemple, ou
un petit toit terrasse de 500 mètres carrés. Quoi.
Exactement, immense villa à San Francisco. Ouais. Donc le principe, c'est tout simplement de proposer aux startups sélectionnées une maison pendant 3 à 6 mois, exactement le temps d'accélération. L'investisseur assure également une certaine forme de mentoring, d'accompagnement, mais surtout laisse sa maison pendant ces trois à six mois aux start-upers. Donc à savoir qu'ils se retrouvent à la fois avec un domicile absolument fabuleux et ils ont la possibilité d'installer leur bureau sur place.
Fatalement, ça a un prix. Après l'investisseur, le pauvre.
Bah l'investisseur, il cherche.
Il achète
autre
une autre
chose.
Maison.
Voilà, exactement.
Ouais. On peut venir avec eux.
Non, c'est pas secret story, startup story. Sauf que fatalement le projet n'est pas, enfin le domicile n'est pas gratuit. Mm-hmm. L'investisseur ou la célébrité en question accorde cette location ou cette donation temporaire de sa maison contre une participation de 5%.
Ah, c'est pas
dans
mal.
La start-up.
Ouais, donc il croit en fait au projet et après
Exactement.
Il peut être récompensé si ça fonctionne.
Exactement,
c'est
tout
pas
à
mal.
Fait. Tout à fait. Ouais. Ça permet d'offrir un lieu de vie.
Il y a des stars américaines start-up. Qui ont des baraques quand même assez sympas. Hein.
Voilà.
Ça peut être cool.
Donc ça s'appelle Crib.
Crib. Très bien. Ouais. Aurore Géraud.
Moi, je vais vous parler de Smart City et de Smart City qui se répare toute seule. Alors, on en avait parlé il y a pas longtemps. Il me semble que c'était Lila qui avait parlé de drones à l'époque. Et moi, je vais parler de réparation de nid de poule. Alors, par
et
différents
ça, et alors
moyens.
Ça, non, mais vous avez
c'est
raison.
C'est très important.
Vous savez que moi, je viens en voiture, il y en a un pas loin et à chaque fois, ça me saoule. Donc, voilà. S'il pouvait s'auto-réparer, ça serait bien, celui-là.
Donc, du coup, j'ai deux, en fait, deux initiatives intéressantes dans le domaine, notamment à Panama, où un programme télévisuel qui s'appelle Télémétro Reporta a lancé un tweeting pothole, c'est-à-dire qui...
Un tweeting pothole.
Un tweeting pothole.
C'est sympa, Aurore.
Pothole, un nid de poule, je rappelle.
D'accord.
Et donc, ils ont mis en place, en fait, un espèce de gros capteur en forme de tweet que les personnes peuvent glisser dans les nids de poule et à chaque fois qu'une voiture va rouler dessus, eh ben, ça va envoyer un tweet directement au ministère des Travaux Publics pour leur dire, en fait, faut pas déconner.
Là, quand même, vous avez reçu pas mal de tweets.
Bien sûr. Donc ça, c'est rigolo. Les citoyens, d'ailleurs, aiment bien relancer avec humour dessus en disant « Oui, là, vous avez réveillé mon enfant au passage quand j'ai roulé sur ce petit tweet. » Et puis, alors la seconde initiative, c'est une start-up new-yorkaise qui s'appelle Adibots, qui, elle, veut essayer de les réparer directement, car c'est une imprimante 3D roulante, toute petite, qui va sur le nid de poule, qui, pour l'instant, envoie en fait de l'eau pour que ça se durcisse et que ça se lisse. Mais peut-être dans le futur, l'idée ce serait de glisser des matériaux, voire des capteurs pour rendre la route intelligente via cette petite imprimante roulante.
Ah, en fait, c'est le Carglass de la route.
Un Carglass automatique.
C'est ça, exactement.
C'est ça. Merci Aurore.
Je vous en prie.
Constance, pour terminer, encore une petite news.
Alors, je vais complètement changer de sujet pour vous parler d'un robot assez atypique qui peut écrire lui-même des discours politiques.
Ah, ça c'est bien. Parce que franchement, parfois, certains discours politiques... alors, je ne citerai personne. C'est un peu...
C'est fatigant et c'est toujours la même chose, vous allez me dire. Finalement, on a l'impression d'entendre le même discours à chaque fois. Alors, des chercheurs ont fait ce constat dans l'université du Massachusetts Amherst. Alors, j'espère que je prononce bien. Et donc, ils ont fait travailler un ordinateur sur 3800 discours d'hommes politiques. Et ensuite, ils l'ont doté d'un algorithme de prédiction qui lui permet de deviner, lorsqu'on lui donne les débuts des mots d'une phrase, quels vont être les derniers mots de celle-ci, ou alors lorsqu'on lui donne quelques phrases, quelles seront les phrases suivantes. Alors, bon, malgré tout, les discours sont encore assez expérimentaux.
Vaut mieux le relire, là, parce que je pense que...
Je vais vous donner, du coup, un petit exemple. Voilà, alors, par exemple, « Monsieur l'orateur, soutenir cette loi, soutenir cette proposition, voilà qui est bon pour les petits commerces. » On ne comprend pas très bien l'enchaînement. Et la dernière phrase, qui est encore plus atypique, en fait, une jeune femme, Lucie, voulait s'assurer que l'économie se portait bien. Cela ne devrait pas se faire avec de l'argent emprunté sur du temps que nous n'avons pas.
Ouais.
Alors c'est vrai que ça va rendre les discours politiques certainement plus amusants, mais on n'est pas sûr que les électeurs suivent derrière.
Voilà,
il y a encore
ça.
Du travail à faire.
Je pense que l'orateur, lui, ne va pas être crédible du tout.
Ça.
Mais en revanche, c'est vrai, on risque de rigoler. C'est comme les Google Translate, en fait, c'est un peu ça.
Oui, voilà, qui ajoute un nouveau sens.
Voilà, exactement. Merci beaucoup,
merci
Constance. Et on enchaîne tout de suite avec notre vue d'Asie et Jean de Chambure.
Bonjour François.
Jean qui, vous le savez, est depuis Shanghai, comme chaque semaine, il nous propose son petit billet, sa petite carte postale de Shanghai. On va parler maintenant du numérique en Chine, qui est dû en fait, en quelque sorte, au génie collectif, c'est ça Jean?
Oui, disons que c'est un angle dont on entend souvent parler, déjà parce que évidemment les Chinois sont fort nombreux, et dès qu'on parle des chiffres des grands acteurs de l'internet, du digital en Chine, comme par exemple le fameux réseau social WeChat, c'est tout de suite des chiffres extrêmement impressionnants. C'est par exemple 650 millions de personnes qui utilisent WeChat uniquement en Chine. Là, les deux exemples dont j'aimerais vous parler, il y en a un qui concerne la campagne. Il y a de plus en plus d'interactions entre l'Internet, le digital et les campagnes, et l'autre qui concerne notre cerveau. Alors, la campagne, on en parle un petit peu moins en ce moment, parce que c'est vrai que la grande actualité de la Chine, c'est son développement économique, ses remous boursiers en ce moment, mais donc on oublie un petit peu que la Chine est aussi un pays qui est encore très très campagnard. Quelques chiffres là-dessus, c'est 530 millions d'habitants, à peu près donc 47% de la population des Chinois, 660 000 villages, et du coup vous pouvez vous en douter François, beaucoup d'endroits disponibles pour écrire, pourquoi pas, des messages qui s'effacent, mais qui peuvent être assez visibles à certains moments, donc qui peuvent être destinés par exemple à des formes de publicité. Et c'est l'idée d'un site internet qui s'appelle Tuntunle, ça veut dire les villages heureux, Tuntunle.
Tuntunle.
Et en fait, d'accord. Donc qu'est-ce qui... Tuntunle, voilà. C'est comme ça que ça se prononce, les villages heureux, Tuntunle, le village. Et donc en fait, l'idée, elle est toute simple, c'est de proposer à des habitants qui ont un peu de temps, qui veulent avoir quelques petits revenus complémentaires, d'écrire, de peindre ces beaux caractères chinois sur des murs, d'en prendre une photographie, pour pouvoir la dater et montrer l'emplacement. Et ainsi, vous êtes Alibaba, vous êtes JD, vous êtes Tencent, vous voulez faire passer des messages, vous pouvez utiliser tout ce crowdfunding. Et il y a de plus en plus de villages en fait qui se mettent à utiliser cette intelligence-là avec une certaine fantaisie, une certaine créativité. Voilà, c'est assez amusant comme idée, en tout cas. Ça s'appelle Tuntunle, la start-up des villages.
D'accord.
Et alors, l'autre intelligence collective, là, c'est plus, plus sérieux. C'est vraiment dans la santé que ça se passe. Vous avez peut-être suivi ce jeune scientifique, François, qui s'appelle Zhao Bowen. C'est un jeune Chinois qui a quitté ses études lorsqu'il avait 17 ans. Et là, il a monté donc sa start-up dans la santé. qui s'appelle Quantil Health. Alors qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont en train de s'intéresser de très très près au séquençage du génome. Ils ont là, avec donc cette intelligence collective, obtenu les gènes de 2500 génies, entre guillemets génies, hein, donc des personnes qui ont un QI de plus de 160, et ils vont mettre ça à profit pour mieux connaître le code source, en fait l'endroit vraiment à partir duquel les gènes font fonctionner notre cerveau, pour potentiellement du coup lutter contre des dysfonctionnements comme la schizophrénie ou l'autisme. C'est quelqu'un qui est très très en avance sur ce sujet-là, voilà, il fallait le saluer, là où Bowen s'appelle.
Est-ce que vous faites partie des 2500 génies qui pourraient être scannés, mon cher Jean?
Je pense pas.
Non,
non, je pense pas. Moi, je fais partie des individus normaux. Comme ça, on pourrait les mettre en parallèle avec les génies et voir là où potentiellement un bout d'intelligence peut se détecter.
Très bien. Bon, en tout cas, je remarque que de semaine en semaine, vous faites des progrès fulgurants en termes de prononciation et d'accent chinois. Hein. Ça, c'est impressionnant.
Il y a encore un peu de marge, mais je vous remercie quand même pour ces encouragements.
À très bientôt, Jean. Jean de Chambure, vous le savez, pour son Vue d'Asie, chaque samedi, dans l'atelier numérique sur BFM Business. Et vous restez avec nous, le Silicon Carnet, dans un instant, avec Nathalie Doré depuis l'atelier US, donc vous ne bougez pas. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business chaque samedi 16h-18h. Donc, le cyber gadget, la sélection de gadgets d'Antoine Cyr dans une minute. Mais auparavant, direction l'atelier US avec Nathalie Doré qui est avec nous. Alors Nathalie, aujourd'hui vous allez nous parler du futur du commerce.
Et oui François, alors c'est un sujet d'actualité, vous savez on ferme les portes tout juste de la NRF hein, qui est le plus grand salon américain sur les sujets du retail et qui a eu lieu donc la semaine dernière à New York. Et bien en fait la course à l'innovation continue sur ce sujet et dans cette course il y a vraiment deux villes qui sont dans le peloton de tête, c'est New York et San Francisco. Alors le futur du retail se joue-t-il à New York ou à San Francisco? Il y a là une vraie bataille est-ouest et on pourrait même dire New York, San Francisco ou Seattle car ne n'oublions pas, il y a quand même le grand géant du e-commerce Amazon qui est à Seattle.
Alors, quand on parle du futur du commerce, Nathalie, on pense aux startups. Elles sont où les startups justement qui travaillent sur ce sujet, à New York ou à San Francisco?
Bien, en fait, le match est assez serré. Hein. Il y en a des deux côtés des États-Unis. En nombre de start-up, on connaît le nombre global de start-up. Et là, c'est San Francisco qui remporte haut la main avec environ 20 000 start-up installés dans la vallée. Mais on n'a pas trouvé le chiffre de start-up dédié au retail. Donc, un indicateur qui peut être intéressant, c'est de voir les accélérateurs qui existent sur ce sujet-là. Et là, il y en a à New York. Il y a le XRC Lab qui a ouvert l'année dernière et qui a pour ambition de réinventer l'expérience client. Et aujourd'hui, ils ont 8 startups en portefeuille. Côté Silicon Valley, c'est le géant Plug and Play, hein, le plus gros incubateur accélérateur des USA, qui lui a lancé un programme d'accélération dédié au retail. Et eux, ils ont 40 startups en portefeuille. Donc, petite supériorité numérique quand même pour la Silicon Valley.
Alors, ces chiffres, c'est bien, Nathalie. Mais de quoi on parle quand on parle du futur du commerce, en fait?
Oui, vous avez raison François. Le plus important, c'est de voir la valeur qu'on apporte aux clients. Et l'objectif, quand on parle de futur du commerce, c'est d'améliorer les produits, les services, l'expérience en magasin. Et du coup, alors on retrouve dans les sujets d'innovation, on retrouve l'expertise de la donnée, la fameuse data, comme on l'appelle ici, pour mieux comprendre les comportements des clients. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a une logique, une culture d'analytique sur Internet, puisqu'on suit tous les parcours, on voit quels sont les taux de transformation, etc. Et bien finalement, ce sont des logiques qui viennent aussi en magasin, dans le monde physique. Et c'est la startup Placemeter, alors il y en a d'autres, mais celle-ci est new-yorkaise et très intéressante, qui installe une petite caméra qui ressemble d'ailleurs pas du tout à une caméra en magasin. Et celle-ci, alors n'enregistre rien, donc il y a pas de sujet de privacy, elle fait plutôt du comptage et elle va amener beaucoup d'informations sur qui rentre en magasin, qui ne rentre pas, qui hésite, qui va voir quoi, etc. Donc on a cette notion d'analytique en magasin très, très intéressante pour avoir la richesse de la data.
Il y a aussi la robotique, sujet, je crois.
Oui, alors aussi, on en est plus là au début, mais c'est intéressant de voir comment les robots peuvent assister les clients en magasin. Il y a eu des expérimentations ici aux États-Unis avec notamment Fellow Robots qui propose ce type de robot et qui est d'ailleurs accéléré chez Plug and Play. Et puis, bien sûr, n'oublions pas toutes les innovations dans le e-commerce, hein, deux mondes que l'on a longtemps séparés et qu'on voit aujourd'hui converger pour une meilleure expérience client.
Bon, alors Nathalie, le match, New York-San Francisco, qui gagne?
Eh bien, vous allez dire que je prends pas de risque, mais c'est serré. Alors, New York va plutôt travailler sur l'expérience en magasin. Il y a d'ailleurs, c'est à New York qu'on voit les plus beaux concept stores comme celui de Rebecca Minkoff. San Francisco, lui, va être plus sur l'innovation de rupture, et notamment l'innovation de rupture dans les services avec des startups comme Instacart ou des géants comme Amazon qui proposent de très belles expériences de shopping en ligne. Services de livraison express, pick-up dans plusieurs magasins. Voilà, l'innovation ici est vraiment orientée service et finalement c'est quand même une approche intéressante puisque à l'heure où beaucoup de produits se commoditisent, donc c'est-à-dire ils se différencient difficilement, et bien l'innovation dans le service va certainement compter de plus en plus. Donc petit avantage quand même pour San Francisco.
Et puis ça tombe bien, vous êtes à San Francisco. Merci Nathalie. Nathalie Doré, donc, vous le savez, la directrice de l'atelier US. On enchaîne tout de suite avec la sélection de gadgets d'Antoine Cyr.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et place maintenant à la gadgeto d'Antoine. Une gadgeto qui vous tient à cœur, mon cher Antoine, puisqu'on le sait, vous détestez les sports mécaniques.
Hein, oui, bien
voilà,
sûr.
Voilà, bien sûr. Alors s'il y a bien, alors c'est pas tout à fait un gadget, mais c'est une tendance dans le domaine de la high-tech, c'est l'électrique. On le voit, elle arrive dans le domaine de l'automobile, voilà, pour le grand public, mais aussi dans le monde de la Formule 1.
Oui, alors d'abord, il y a une chose que les gens ne savent pas, ou pas beaucoup, c'est que le sport automobile, c'est en fait un énorme banc d'essai des nouvelles technologies non polluantes. Vous savez par exemple qu'aux 24 heures du Mans, il y a des années que les voitures qui gagnent les 24 heures du Mans sont des voitures hybrides. Parce que les règlements des 24 heures du Mans vous donnent des jetons de puissance qui vous autorisent à exploiter un certain niveau de puissance, et selon le degré d'hybridité de votre voiture, vous avez plus ou moins de jetons de puissance.
D'accord. Donc oui, là, c'était une nécessité de passer à l'hybride, en fait.
Ben, le règlement vous oblige à avoir voiture hybride
et
la plus poussée.
Toutes ces technologies arrivent dans le grand public.
Par exemple, les Porsche, qui a gagné cette année les 24 heures du Mans, fait de l'hybride dans ses voitures de série, de plus en plus, et a exploité une technologie hybride qui est absolument à l'avant-garde pour gagner les 24 heures du Mans. Mais donc, l'hybride, c'est une chose, il y a le tout électrique, et donc il existe un championnat qui s'appelle le championnat de Formule E, le concurrent du championnat de Formule 1, d'accord, sachant d'ailleurs que les Formule 1 ont aussi un moteur hybride maintenant.
Et oui.
Mais la Formule E, c'est du tout électrique. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux premières années du championnat de Formule E ont été plutôt des réussites. Les constructeurs s'engagent, les spectateurs.
Est-ce que c'est l'avenir aussi, on peut dire. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'à terme, ça peut remplacer la Formule 1?
C'est pas complètement impossible, d'autant plus que ce qui se passe, c'est qu'évidemment, comme l'électrique est vu par les villes comme une solution d'avenir, en plus, les organisateurs de la Formule E ont été très malins, parce que par exemple, toute l'électricité qu'ils utilisent pour leurs installations est produite à partir de matières renouvelables.
D'accord.
Enfin, il y a un discours marketing, mais qui repose quand même sur une utilisation systématique des technologies.
Mais ça va à l'encontre de la pollution qu'engendre la Formule 1. Ben, donc on est vraiment
de la pollution imaginée qu'engendre la Formule 1, parce qu'en réalité, dans une Formule 1, dans un Grand Prix de Formule 1, l'essentiel de la pollution vient des voitures des spectateurs, comme dans un match de foot.
Oui, c'est ça. Mais en termes d'image, c'est vrai que
différent. Hein, mais la pollution réelle d'un Grand Prix de Formule 1, elle n'est pas supérieure à celle de n'importe quel autre événement sportif. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que par exemple à Londres, on a eu un Grand Prix de Formule 1 qui s'est très bien passé, et là quand même la ville de Paris s'est dit Londres a fait une formidable opération avec ce Grand Prix dans la ville de Londres qui a beaucoup plu, et donc ils ont accepté pour 2016 d'organiser un Grand Prix de Formule E qui va se dérouler le 23 avril et qui va se dérouler devant les Invalides, sur l'esplanade des Invalides, donc dans un lieu évidemment ultra public et ultra familier des Parisiens. Apparemment, les places, c'est pas encore très clair, mais enfin l'accès sera assez facile pour un large public et les places ne vont pas être vendues très chères, quoi. Ça va être là pour le coup la possibilité d'accéder à un grand spectacle de course automobile pour un prix raisonnable. Mais un grand spectacle de course automobile parce que les voitures vont à 230 km/h et parce qu'on a des grands pilotes, hein. La plupart des pilotes qui courent en Formule 1 sont des pilotes qui étaient en Formule 1 il y a un ou deux ans ou qui seront peut-être en Formule 1 dans un ou deux ans.
Ça va être intéressant de voir justement l'évolution de cette technologie, l'électrique, dans la Formule E. Et est-ce que ça remplacera peut-être la Formule 1 dans quelques années? On verra bien. Merci Antoine. On revient dans un instant. La suite de l'atelier numérique, c'est dans une minute sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous. L'atelier numérique sur BFM Business tout à l'heure. Dans quelques minutes, on va s'intéresser au business de la rencontre en ligne. Comment se porte ce marché? On en parlera tout à l'heure avec la directrice générale d'Attractive World, Pauline Tourneur sera là. Mais auparavant, c'est notre focus startup. On va s'intéresser au bug bounty qui s'attaque à la France et on va parler de Yes We Hack maintenant.
Oui, nous sommes avec Guillaume Vassaud-Houlière qui est donc CEO de Yes We Hack. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Alors, le bug bounty, qu'est-ce que c'est?
Alors le bug bounty, c'est simple, en gros c'est une prime au bug découvert. Donc c'est-à-dire que vous avez des chercheurs en sécurité qui sont mis en relation via notre plateforme avec les entreprises qui le souhaitent et les entreprises rémunèrent par rapport à la criticité de la vulnérabilité informatique qu'ils auront découvert.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que développe Yes We Hack du coup?
Alors nous, Yes We Hack, en fait, on est une plateforme, on est un intermédiaire de confiance, donc on les met en relation et nous on propose l'interface, on leur propose tout ce qui est la communauté autour de Yes We Hack de par nos années dans le milieu de la sécurité et notamment on a des dashboards qui facilitent en fait la sécurité que ça soit aux startups, pour les startups ou même les équipes de sécurité de grands comptes.
Alors là, vous venez de sortir une plateforme, la première européenne. Vous pourriez nous en parler un peu plus?
Alors, la plateforme s'appelle bountyfactory.io. Donc voilà, c'est une plateforme de bug bounty. Donc cette plateforme, justement, permet de mettre en relation la communauté de hackers les entreprises. Donc notamment autour du bug bounty. Et aussi, à côté de ça, Yes We Hack aussi permet de recruter des éventuels collaborateurs, justement, via les points qu'ils ont reçus lors de leur participation au bug bounty. Vu que c'est un peu un game au final, puisque chaque chercheur en sécurité, chaque expert va récupérer des points en fonction de la prime qu'il aura reçue numéraire.
Et concrètement, je suis un gentil hacker, on va dire. Comment fonctionne votre plateforme? Quelle mise en relation est faite?
Alors c'est assez simple, hein, en fait, vous inscrivez, vous validez les règles qui ont été définies par la société, donc typiquement la société va définir un périmètre et va définir aussi un montant minimum de récompense. Voilà. Et du coup, vous allez tester la sécurité du périmètre que la société aura défini dans ses règles. Et après, vous remontez via notre plateforme, en fait, de façon sécurisée, en fait, les vulnérabilités que vous aurez trouvées. Et après, la société valide ou non la vulnérabilité si par exemple en final elle ne fonctionne pas ou des choses comme ça, et après vous serez rémunéré en direct directement via la plateforme et tout ça de façon on va dire anonyme. L'entreprise et le hacker n'ont pas la visibilité des contacts.
Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions.
Merci à vous, bonne soirée.
Et après notre Yes We Hack, nous allons parler maintenant de Yes We Can Rencontre, ou Meet.
Tout à fait.
Vous avez remarqué au passage mon accent anglais et mon phrasé anglais qui est parfait, Lila. On va parler donc du marché des rencontres sur
tout
le web.
Fait.
Tout à fait. Le marché de la rencontre en ligne, avec un acteur très présent, qui a aujourd'hui, il me semble, 9 ans. Pour en parler, on a le plaisir d'avoir en studio Pauline Tourneur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Pauline Tourneur, vous êtes directrice générale France d'Attractive World. Alors, Attractive World, il y a 9 ans, c'était distingué, se distingue toujours par ce concept de cooptation entre membres. Aujourd'hui, vous revendiquez 600 000 membres.
Tout à fait.
Pour 2 millions de candidatures. Je me posais un peu la question avec la masse de nouvelles plateformes entre Tinder, Gliden, qui se lancent également sur ce marché de la rencontre en ligne. Est-ce que le nombre de candidatures est aujourd'hui toujours aussi fort chez Attractive
World? Commence à avoir du monde, quoi. Il y a pas mal d'acteurs. Puis il y a Mythique aussi qui est toujours là.
Tout à fait, tout à fait. Donc le marché de la rencontre est un acteur très, très diversifié. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Je vais répondre tout de suite à votre question sur comment on se positionne et est-ce qu'on a toujours autant de candidatures. Alors, je commence toujours par dire qu'Attractive World, on cherche pas la quantité, mais la qualité. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait que c'est la course aux membres. Nous, en fait, c'est 600 000 membres acceptés par une communauté déjà existante. Donc c'est les membres existants qui sélectionne les gens à l'entrée. L'inscription est gratuite, n'importe qui peut venir. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, seul un tiers des personnes sont acceptées.
Mmh. C'est-à-dire que moi, par exemple, je veux m'inscrire.
Tout à fait.
Il va falloir que un membre de votre site valide ma candidature.
Tout à fait, ce seront plusieurs membres. Quand vous êtes, une fois que vous êtes membre sur Attractive World, vous votez régulièrement pour des nouveaux entrants. Et en fait, la sélection se fait essentiellement. Alors, on ne sait pas pourquoi les gens votent. C'est un choix, c'est un libre choix. Mais on sait clairement que ce qui fait la différence, c'est ce que nous on revendique, ce sont des célibataires impliqués et raffinés. Donc, c'est-à-dire impliqués, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps de s'inscrire. Et ce qui partage des mêmes valeurs. Et en l'occurrence, ils cherchent aussi un projet similaire qui est le rêve d'une vie à deux.
Voilà, donc là, sincèrement, on cherche donc son alter ego, quoi. On cherche son binôme. C'est une rencontre, on va dire, au long cours.
Tout à fait.
On peut envisager en allant sur votre site.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas forcément le cas des autres sites que vous avez cités, évidemment.
En fait, si on regarde un peu le marché du dating, et c'est notre façon de le segmenter ou de le structurer, il y a un peu le marché des rencontres sexy, dans lequel vous allez avoir des adult finders, des gliden. Ensuite, vous allez avoir des rencontres fun. Donc, ça va être adopte un mec, Tinder, Happn. Je sais que généralement, on parle pas de la concurrence, mais moi, j'en parle. Et après, vous allez avoir les rencontres sérieuses, dans lesquelles vous allez avoir Elite, e-darling, et Attractive World, sachant que voilà, il y a une évolution un petit peu du marché. Et nous, on se positionne vraiment sur la rencontre sérieuse, donc des gens qui cherchent une relation, le rêve d'une vie à deux. Voilà, clairement.
Alors, quelques-unes de ces plateformes de rencontres en ligne se sont clairement positionnées sur le mobile. Comment vous avez répondu à ce changement d'usage des internautes qui deviennent mobinautes également dans leur recherche d'âme sœur?
Alors c'est le challenge, hein, et c'est clairement le virage qu'on est en train de prendre. Alors je suis très fière de vous annoncer qu'on a lancé notre nouvelle application iOS en début de semaine. Voilà, donc je suis extrêmement fière de le dire. C'est une application native et 100% intuitive. Après, au-delà de ça, c'est toute la complexité du marché du dating et par rapport à notre positionnement. Le rêve d'une vie à deux, il est, enfin, une rencontre sérieuse. Paradoxalement, ça se fait pas en un clic. Voilà. Donc, on peut vous vendre du rêve qu'une vie au long cours, ça se fait en un clic, mais néanmoins, il faut être impliqué, il faut prendre le temps.
Et puis, ça marche pas à chaque fois.
Et ça
aussi.
Ça marche pas à chaque fois. Exactement. On garantit pas les résultats, même si nous, on est très fiers de dire qu'on contribue à un mariage par jour.
Ah.
Chez Attractive World.
D'accord.
Voilà. Un mariage.
Grâce
un
à votre site, il y aurait un mariage par jour.
Exactement, selon les témoignages de gens qu'on reçoit, qui quittent notre site et qui disent avoir rencontré l'amour.
Et c'est beaucoup plus que vos sites concurrents ou?
Je sais. Alors comme je vous le disais, nous on cherche pas forcément à communiquer sur le volume. Enfin, c'est ce qu'on cherche, c'est la qualité d'une relation. Donc
c'est vrai que sur Gliden, il y en a pas beaucoup qui doivent se marier entre eux, je pense. Enfin bon, ça c'est.
c'est ça.
C'est un autre débat. On sait jamais, peut-être, mais c'est vrai que c'est différent.
Est-ce qu'il n'y a pas également la question de l'âge? L'âge des personnes qui vont s'inscrire aux différents sites de rencontres. Il me semble que les Tinder, Happn, c'est davantage pour une cible plutôt assez jeune.
Ado jeune, ouais.
Assez jeune. Quels sont vos abonnés aujourd'hui? Est-ce que c'est davantage de célibataires qui ont cette volonté de s'installer,
de penser au futur?
Exactement.
Donc notre cible historique, depuis qu'on s'est créé en 2007, c'est clairement les 35-55, d'accord, plutôt des CSP+. Et donc on est plutôt, alors quand on dit 35 ans, 55 ans, pour résumer, on peut dire qu'il y a la première tranche de vie, où vous avez jamais vécu avec quelqu'un en long cours, et après, deuxième tranche de vie, des gens qui ont été mariés et qui divorcent, et qui après ont envie de reconstruire quelque chose. Pour répondre à votre question par rapport à des Tinder et des Happn qui sont beaucoup plus jeunes, oui, clairement, parce que ce sont des applis 100% mobiles. Néanmoins, l'émulation que ça crée, toutes ces nouvelles applications, il y a un nombre d'applications sur le dating qui sortent. Moi, j'ai envie de dire une par semaine avec chacun des positionnements différents. La bonne nouvelle, c'est que ça démocratise le dating online. Voilà, ça le rend accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça crée aussi des attentes utilisateurs plutôt en mode ludique. Donc nous, notre rôle, c'est de répondre, de tenir compte de ces évolutions sociétales et technologiques, tout en se disant, tout en étant fier de notre positionnement et de notre savoir-faire. La sélection à l'entrée pour des célibataires exigeants. L'exigence, c'est quoi? C'est être exigeant envers soi-même et envers les autres. Voilà. Et combiner ça, donc, c'est un travail au long cours et de tous les jours.
Quel est votre modèle économique? Parce qu'on voit qu'il y a certains sites qui sont gratuits, qui livrent de la publicité, ou voilà. Ça marche comment chez vous?
Alors nous, notre modèle économique, c'est l'abonnement. Donc c'est un site, tout le monde peut s'inscrire, c'est gratuit. Et une fois que vous voulez rentrer en contact avec des célibataires, vous prenez des abonnements de l'ordre de 1 mois, 3 mois ou 6 mois.
Voilà. D'accord. Mais il faut être accepté avant de payer.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais il n'y a pas besoin de payer pour être accepté.
D'accord. Voilà. Très bien.
Exactement. Donc nous, c'est vraiment un modèle d'abonnement, sachant qu'aujourd'hui, il y a des sites 100% gratuits, il y a des sites au modèle freemium et abonnement. Voilà.
Et les filles et les garçons payent?
Tout le monde paye.
Tout le monde paye.
Exactement, ça aussi, c'est un autre parti pris qui a été fait dès le départ. Donc notre credo, nous, ça a été la sélection qui rassure hommes et femmes. Et après, tout le monde paye.
Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est j'ai lu que sur Attractive World, il me semble que les femmes représentent 53%. De vos abonnés.
Tout à fait.
ce qui est assez étonnant pour les sites de rencontres.
Tout à fait. Vous êtes très bien renseignés. Effectivement, on est on est un site sur lequel il y a majorité de femmes, et ce depuis le début de la création. Et on pense que c'est clairement la sélection qui rassure. Voilà, parce que du coup, c'est pour ça que je parle de célibataire impliqué et raffiné, parce que les gens prennent le temps et sont respectueux des gens. Quand Attractive World a été créé, c'était pour répondre à la problématique. Souvent, quand vous êtes une femme, vous êtes harcelée de messages et alpaguée dès lors que vous arrivez sur un site.
D'accord. Une petite question donc concernant la mobilité, parce que vous dites vous annoncez fièrement votre appli iOS, c'est pas un peu tard finalement parce que c'est vrai que aujourd'hui on peut pas envisager ce genre de service sans mobilité. Pourquoi vous arrivez si tard
Je dois rectifier, on avait déjà une
application. Vous aviez une appli, mais vous l'avez refaite.
Exactement,
exactement.
On avait déjà une application depuis 4 ans et on l'a refaite pour être complètement dans l'air du temps et qu'elle soit 100% native et justement tenir compte de l'évolution des pratiques des utilisateurs. Ouais. Voilà. Donc,
et le mobile, c'est une part importante justement de la consultation sur votre site?
De plus en plus, oui. Ouais. Et en fait, pour répondre aux enjeux de mobilité, d'un point de vue plus stratégique, on est en train de, d'un point de vue produit, on est en train de tout refaire et d'avoir un site, l'idéal d'avoir un site 100% responsive et des applis 100% natives. Donc, pour permettre aux clients, enfin, aux membres d'accéder à notre service toute la journée. Attawad, anywhere, anytime, any device. Donc, j'invente rien. Hein. Mais la scission entre je travaille et le soir, je consulte mes sites de rencontre, non, elle n'a plus lieu. C'est toute la journée. Et ça a des vraies conséquences sur l'expérience utilisateur que vous proposez.
Les Français seraient le troisième marché européens, selon une étude de nos chers voisins allemands. Est-ce qu'il y a des spécificités propres au marché français?
Troisième marché du dating, enfin,
du dating, ouais. De l'online dating.
Oui, mais est-ce qu'on drague comme les Anglais ou les Allemands?
Ce que je sais, c'est que je pense qu'il y a clairement des différences entre des approches, je dirais. Alors c'est un peu de la sociologie ou culturelle, entre des approches religieuses, que vous êtes protestant, catholique, et la liberté avec laquelle vous parlez de ça. Ça, c'est un premier point. Après, sur la diversité des acteurs, le marché UK est un marché extrêmement mûr, et pour le coup, il y a beaucoup de sites. Alors, beaucoup de sites en marque blanche. C'est quand même moins le cas en France. Voilà, c'est ce que je peux en dire aujourd'hui.
Est-ce que vous constatez, parce qu'on peut observer un essor des concepts, des approches davantage affinitaires et communautaires, je pense à certains sites de rencontres qui vont par exemple permettre de se rencontrer entre confessions communes. Est-ce que c'est un essor que vous confirmez de ce que vous voyez, ou ça concerne absolument pas au sein d'Attractive World, en tout cas?
Bah, quand on parle du marché de la rencontre en France, enfin, si je me concentre juste sur le marché de français, c'est plus de 2000 sites de rencontre. Donc, dedans, il y a les grands acteurs, ceux qui sont capables de faire des grandes campagnes de communication, et puis après, des acteurs un peu plus des niches ou des verticaux. Mmh. Et en l'occurrence, sur les verticaux, on en a tout type, par communauté, par centre d'intérêt. Après, nous, ça nous impacte pas directement. Enfin, ce sont juste des acteurs complémentaires.
Il y a une autre tendance aussi, c'est certains sites qui proposent des rencontres, enfin des soirées à thème. On fait de la cuisine, on va.
Alors nous aussi on fait.
Voilà.
Tout à fait.
Vous le faites aussi.
Je précise que Attractive World est à l'origine de l'organisation des événements pour les membres et par les membres.
D'accord.
Donc on organise plus d'une centaine d'événements.
Vous avez été copié donc visiblement par d'autres.
Oui.
C'est plutôt.
Bien sûr. Et en fait, mais après la vraie particularité qu'on a, donc il y a effectivement les événements organisés par Attractive World et les événements organisés par les membres eux-mêmes qui décident de s'organiser, donc une soirée.
D'accord.
Théâtre. Voilà, tout à fait. Et oui, pour le coup, parce que la rencontre, c'est l'intermédiation, rencontrer des célibataires et de prendre contact online, mais bon, voilà, in real life, à un moment donné, c'est une autre approche de la rencontre.
Voilà, la stratégie donc d'Attractive World. Pauline Tourneur, merci.
Merci à vous.
Directrice générale donc de ce site. Merci beaucoup. Lila, on revient dans un instant. Web stratégie, on va parler de tout autre chose là, puisqu'on va parler de la transformation digitale de 5 à sec.
Mais oui.
On connaît tous.
Mais
eh bien,
on
voilà.
Reste dans la même tranche.
Voilà, on en parle dans un instant sur BFM Business, dans cet atelier numérique. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, dans quelques instants, ce sera notre passion selon Sanet. On va parler de l'apport de la technologie face aux déserts médicaux, avec une espèce de cabine qui peut remplacer dans certains cas un médecin. En fait, vous êtes en contact avec un médecin à distance. On en parlera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, c'est notre web stratégie sur BFM Business dans cet atelier numérique. Et c'est avec vous, Lila Megrawa.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la transformation digitale du groupe 5 à sec. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Julien Recoing. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Julien Recoing, vous êtes à la fois directeur innovation et stratégie digitale groupe du groupe 5 à sec, mais vous avez également la casquette de DG de Groombox. Le groupe 5 à sec a acquis la start-up Groombox, qui est spécialisée notamment dans la conciergerie, si je me trompe. Donc ça regroupe à la fois des services de pressing, de retouche, cordonnerie également. L'idée du groupe, c'était quoi? C'était avant d'être disrupté, de se disrupter soi-même?
L'idée du groupe, c'est de se dire mon consommateur, mon client, il consomme où? Il consomme en partant de chez lui, en passant devant la boutique, consomme avant d'arriver au bureau parce qu'il y a une boutique à côté du bureau. Mais où est-ce qu'il a besoin de consommer aussi? Peut-être qu'il a besoin de consommer au bureau aujourd'hui aussi. Et on voit le marché de la conciergerie dont on parle depuis longtemps, mais qui peine quand même à se développer parce que les coûts d'entrée sont très élevés, que les entreprises n'ont pas tous les moyens, qu'elles veulent installer du service pour leurs collaborateurs, mais que l'accessibilité en fait de ce service pour l'entreprise est trop élevée. Donc la naissance de Groombox a été le fait de dire on prend peu de mètres carrés, on met un outil qui sont des consignes qui sont connectées à une application mobile en entreprise pour que les collaborateurs, quelle que soit l'heure à laquelle ils arrivent ou à laquelle ils repartent, ils puissent quand ils veulent déposer leurs affaires pour le pressing, la cordonnerie, la retouche dans ces consignes et passer commande par une application mobile qui leur permet de rester multitâche, c'est-à-dire que vous pouvez être en conversation avec un client et de l'autre côté avoir déposé vos affaires 5 minutes avant dans une consigne et passer commande par application. Et tout ça pour l'entreprise, pour un coût très modique. L'acquisition de Groombox, c'est l'acquisition d'un point de contact supplémentaire, intelligent, qui correspond aux attentes du consommateur aujourd'hui, qui sont je veux que ça aille vite, je veux du délai, de la qualité, ce que produit Groombox et 5 à sec, et je veux que ce soit accessible facilement sur mon chemin du quotidien. Et le quotidien, le bureau fait partie du quotidien.
Groombox est l'occasion pour le groupe 5 à sec d'élargir ses services à l'univers B2B, au monde de l'entreprise.
Alors, l'entreprise est plutôt un partenaire qu'un client, parce que notre client, c'est celui qui consomme. Donc, on est plutôt dans le cadre du B2B2C. Groombox est aussi un moyen d'accélérer la réflexion sur, en dehors de l'entreprise, parce qu'on est, Groombox est aussi sorti de l'entreprise, présent dans les quatre temps, et présent à la gare Saint-Lazare et à d'autres projets de développement dans l'univers mass market retail de rue, si je peux m'exprimer ainsi. Et l'idée pour 5 à sec, c'est de se dire, j'ai pas encore développé, je suis en cours de développement de mes outils digitaux. J'ai acquis une entreprise qui, elle, son point de départ, c'était la digitalisation de ce service pour le rendre plus facile d'utilisation. Je vais utiliser la compétence des hommes, parce que c'est d'abord ça aussi pour le groupe, des hommes de Groombox que je vais intégrer au groupe 5 à sec pour pouvoir accélérer ma prise de conscience et l'action sur, bah, je vais inclure dans mon modèle retail classique la suppression des irritants que sont la queue en magasin, le passage de commande, le paiement. Voilà, donc aujourd'hui on est entre la fin de la phase de réflexion et le début de la phase d'action qu'on va voir dans les mois prochains sur la sortie d'applications mobiles, ce genre de choses.
Est-ce que demain le tout automatique sera envisageable? À savoir, j'aurai ma consigne, je déposerai mes vêtements en donnant mes coordonnées, je pourrais venir chercher mes vêtements traités le lendemain.
Alors, le tout automatisable demain, non, on n'y croit pas. Un, parce que tous nos clients sont pas les mêmes. Et pour n'importe quelle autre activité, je pense que c'est aussi vrai. Vous avez des CSP, vous avez des tranches d'âge. Aujourd'hui, le web to store et inversement, il se développe beaucoup, mais il se développe pas sur toutes les tranches d'âge et sur toutes les CSP. Pour nous, c'est pareil. La consigne, le tout automatisé comme Groombox peut le faire, c'est simplement un point de contact supplémentaire avec le consommateur qui répond à une catégorie de consommateurs qui ont ce type de demande. Voilà. Mais est-ce que vous êtes dans votre quartier, vous voulez voir votre teinturier, vous descendez en bas de chez vous, c'est plus sympathique qu'avoir une consigne? Oui, ça l'est. Donc il faut de tout pour tout le monde.
Aujourd'hui, à quel point le point de vente physique, le magasin 5 à sec est connecté?
Alors, on n'est pas encore dans un magasin proprement dit connecté. On va l'être cette année. Alors, je peux pas encore tout vous dire sur les applications qui vont sortir, mais on va être connecté à l'extérieur du magasin. Donc avoir un service supplémentaire aux consignes qui va permettre d'avoir, de répondre à une demande de clients qui souhaitent avoir du dématérialisé et du connecté, sans pour autant aller dans la boutique. Donc je laisse votre imaginaire faire le chemin. Et après, sur la boutique elle-même, oui, on va introduire des éléments connectés pour justement supprimer ces irritants. Ne plus faire la queue, avoir la capacité de pouvoir rentrer dans un magasin, déposer, repartir en 5 secondes et pourtant avoir bien passé commande, avoir payé. Voilà, donc le magasin qui se connecte chez 5 à sec, ça commence en 2016.
Merci beaucoup Julien Recoing. Je rappelle, vous êtes directeur innovation et stratégie digitale du groupe 5 à sec et également directeur général de Groombox. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Lila, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec notre passion selon Sonnette. Et puis, juste après, ce sera le World Tour et le French Tech Tour. Nous irons en Alsace ce samedi. À tout de suite.